en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs, pardon si je ne porte pas la cravate protocolaire, mais c'est que j'ai un problème à la gorge. Donc j'espère que tout ira bien et que vous pourrez me suivre jusqu'au bout, ou qu'au moins je pourrai suivre jusqu'au bout votre présence. Je ne commencerai pas le propos et je ne commencerai pas le portrait que vous avez fait, qui est assurément celui dû à l'amitié que vous me portez et dont je suis extrêmement redevable et sensible. Monsieur le Président, je vous remercie pour votre invitation. C'est un honneur de pouvoir contribuer, même modestement, à cette année complète de réflexion de l'Académie sur le thème de l'opinion publique. Modestement, puisqu'à la suite d'exposés savants et érudits, donc attendez-vous à quelque chose qui vous fasse descendre de quelques étages, s'attachant à préciser tant le concept que la genèse ou la finalité de l'opinion publique, il s'agit aujourd'hui de la contribution d'un praticien sous l'angle du marché de l'opinion. Je me posais la question de savoir pourquoi j'étais invité, j'ai vu marché et je me suis dit, mais bien sûr, publicité, négoce, marché, voilà une raison pour être invité à cette discussion. Et donc de la pertinence des techniques de la publicité qui pourraient lui être appliquées. Sujet qui pourrait partiellement faire écho à certaines communications de cette année. Vous y avez fait allusion. Je pense notamment à celle de Chantal Delsol sur populisme et médias, le procès réciproque, ou celle de Brice Teinturier sur la fabrique des sondages. Un sujet qui, j'en suis convaincu, conduit lui aussi à dépasser un cadre trop strict pour converser à l'ombre des notions de libre arbitre, de respect de la vie privée et de démocratie. En effet, l'intitulé même de cette communication n'est pas anodin, les techniques de la publicité appliquées au marché de l'opinion, et je remercie l'Académie pour cette formulation qui, en creux, permet de mettre au jour deux tensions essentielles de la communication au XXIe siècle. D'abord, les techniques, avec l'idée qu'il puisse exister une recette, un protocole, aujourd'hui on dirait un algorithme, c'est-à-dire une succession d'instructions qui serait à même de produire un résultat espéré. Une telle idée n'est guère nouvelle, renvoyant notamment à la psychologie des foules en 1895 de Gustave Le Bon, à psychologie des masses et analyse du moi en 1921 de Sigmund Freud, à l'ingénierie du consentement en 1947 d'Edouard Bernays ou la fabrique du consentement, économie politique des médias de masse d'Edouard Herman et Noam Chomsky en 1988. Cependant, sous l'effet combinatoire des technologies radicales, Internet et la génération de Big Data, le cloud dématérialisé, l'intelligence artificielle, la blockchain et demain l'ordinateur quantique, le rythme totalement inédit de l'innovation propre à véhiculer l'opinion donne un pouvoir sans précédent à ces techniques. On pourrait même croire que les techniques ont plus de pouvoir que le fond. Ensuite, la notion de marché de l'opinion avec deux conséquences immédiates. La notion d'atomicité de l'opinion, là où d'aucuns parlaient souvent de l'opinion, si ce n'est une et indivisible, du moins d'une certaine masse homogène. Ainsi que la notion de valeur, valeur de l'acquisition. Pensons un instant au « no taxation without representation » de la guerre d'indépendance américaine, mais également, et demain encore davantage, valeur des données qui gravitent autour de cette opinion individualisée. Sans oublier celle qui semble avoir bon dos, une dame âgée aujourd'hui de 176 printemps, la publicité, ici coincée entre d'une part une approche cartésienne et hydraulicienne du monde et d'autre part un domaine qui n'est pas celui de prédilection et qui peut hélas conduire à l'affubler d'habits propagandistes qui ne sont pas les siens. Sans surprise, vous pourrez compter sur votre serviteur pour défendre les mérites de la publicité, mais celle qui est parée de tous les atours de la déontologie et d'une certaine éthique qui en fait son honneur. Qu'est-ce que la publicité appliquée à l'opinion ? L'utilisation de techniques de communication au service de campagnes d'intérêt général ou de campagnes politiques. Point barre. Ça s'arrête là. Soit de manière ponctuelle, comme l'a rappelé récemment la mobilisation des Gilets jaunes, soit dans la durée, comme par exemple redresser l'image écornée d'un président de la République, n'y voyez là aucune allusion à quelques situations actuelles. Pour cela, il est vrai qu'il existe des méthodes. C'est d'ailleurs ce qui a permis de définir le champ de la publicité. Un jour, la réclame devint la publicité. Aujourd'hui, la publicité entre au CAC 40. Ceux qui ont vu en 2004 cette campagne dans la presse savent que la grande aventure de la communication au XXe siècle est apparue quand la réclame a disparu. Le terme « réclame », créé en 1869, était chargé de toutes les allusions méprisantes et de toutes les teintes péjoratives dont est affublée l'idée de mendicité. Réclamer, quand de surcroît, c'est en s'autorisant pour appâter le chaland tous les excès de l'exubérance et de la séduction, c'est faire fi des règles déontologiques élémentaires et de l'idée de méthode pour parvenir coûte que coûte à ses fins. J'y insiste pour y revenir un peu plus tard dans un contexte technologique. Quelles sont donc les règles de la publicité ? Le but ultime de la publicité est de susciter une différence qui pourra conduire à la préférence. Vous avez fait allusion aux 100 mots de la communication, c'était en bonne place dans les 100 mots. Effectivement, nous créons de la différence et cette différence doit conduire à une préférence, préférer une marque, préférer une entreprise, un produit, etc. Préférence absolue en mettant en exergue les qualités intrinsèques d'un produit ou préférence relative par comparaison ou en creux, cette préférence étant à la fois, et c'est très important, rationnelle et émotionnelle, articulée autour d'un bénéfice clé pour le client, ce que nous appelons de manière classique le bénéfice consommateur, formulé à partir d'un avantage produit identifié, qu'il s'agisse d'une innovation technique, par exemple un système sans fil, d'une performance particulière, la consommation d'une voiture, aujourd'hui c'est d'actualité, d'un prix attractif, ou encore, et c'est beaucoup plus subtil, et c'est souvent ce qui fait la vraie différence, d'une satisfaction psychologique, ce que nous avons baptisé à Publicis, la satisfaction psychologique différentielle. En effet, les preuves qui sous-tendent le bénéfice sont bien souvent émotionnelles. Comme l'observait Jean Baudrillard dans le système des objets, alors que la société dite de consommation émergeait à peine, on achète un objet, mais c'est un signe que l'on consomme, un signe social, culturel ou esthétique. Et d'ailleurs, mon cher Mario, Umberto Eco l'avait écrit bien avant Baudrillard, avec toutes ses études sur la sémiologie. Ainsi, la publicité associe-t-elle toujours l'émotion à la raison, afin d'éveiller une sensation, une gratification psychologique, tout en s'appuyant sur les qualités intrinsèques d'un produit ou d'un service. Par construction, cela implique nécessairement que le produit ait des qualités. Comme aimait à rappeler Abraham Lincoln, on peut tromper une partie du peuple tout le temps, ou tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Il en va de même en matière de publicité. Un mauvais produit reste un mauvais produit et il n'est guère possible de le faire passer pour bon. On ne fait pas prendre des vessies pour les lanternes bien longtemps à un consommateur. Ces règles de la publicité s'appliquent-elles à la politique et donc à l'opinion ? La politique en démocratie est assurément un terreau fertile pour cette notion de préférence et ses mécanismes sous-jacents. D'abord, le désir, si central à l'approche publicitaire dans les années 60, et la stratégie du désir d'Ernest Dichter. Les années 90 avaient décrété le désir obsolète. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Notre société hypermoderne hédoniste l'a réhabilité. Hier, désir d'avenir. Aujourd'hui, désir progressiste. Demain, désir d'immortalité. Et pour les hommes politiques, désir de durée. Ensuite, la connivence. Cette proximité librement consentie. À l'instar d'une parole politique, elle suppose le talent d'écriture, l'inventivité, le flair, mais aussi le respect de l'autre, la parité dans la relation. Nul besoin de chercher à dominer, à assommer. C'est un contrat qui est proposé, accepté d'écouter en contrepartie de ce que Roland Barthès nommait le plaisir du texte. Le slogan cristallise de manière aiguë l'enjeu de cette connivence en politique comme en matière publicitaire. En 1952, le slogan « I like Ike » pour la campagne produite par les studios Disney et Citizen for Eisenhower Nixon résonna dans toute l'Amérique comme une évidence. De même que la fameuse campagne « It's morning America again » pour Ronald Reagan. Enfin, évidemment, la création, ou tout au moins le sentiment de nouveauté, c'est là le paradoxe de la publicité. Le jamais vu ne doit pas donner le sentiment de l'inconnu, de l'étrange. La publicité n'invente pas, ne crée pas, elle revisite. La surprise, disait Paul Valéry, est chose finie. L'une des règles fondamentales de la publicité est de surprendre, étonne-moi, et en même temps de permettre aux consommateurs de reconnaître des éléments familiers. Parce que c'est cela qui va créer le lien avec un produit et c'est cela qui va créer le lien émotionnel. La surprise en communication vient d'abord de ce dérèglement de l'habitude quand elle cesse soudain d'être une norme. Lorsqu'on ne meurt jamais véritablement en politique et que la réinvention est reine, cette création finie est une précieuse alliée. Mais la tâche se complique lorsqu'il s'agit du produit politique lui-même, pour deux raisons essentielles qui tiennent à sa substance et à sa persistance. Disons-le tout de go, un produit politique au sens publicitaire du terme n'existe pas. Un réceptacle, oui, une projection, certainement, sans doute, mais faute de caractéristiques intrinsèques, et indiscutable, la préférence ne peut qu'être relative, souvent basée sur les moindres défauts supposés, comme ce fut le cas donc de l'autre, comme ce fut le cas lors de la campagne présidentielle en 2017. Et quand bien même identifié, un produit politique se métamorphose entre la phase de campagne et l'exercice de responsabilité. C'est la raison pour laquelle Publicis ne fait pas de campagne politique. On n'est pas assuré que le produit restera stable entre la période électorale et l'exercice du pouvoir. Et donc, l'instabilité est un élément qui inquiète. Et comme nous ne savons pas bien gérer les situations instables, nous préférons laisser ça à d'autres. Il faut mettre au crédit du président de la République actuel d'avoir parlé vrai durant la campagne de 2017. Mais cette technique, pardon, j'avais prévenu François. Mais cette technique publicitaire s'est rapidement heurtée à l'absence, merci, à l'absence de parole qui lui a succédé dans des moments délicats de l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire que la distance qui a été prise a créé un fossé. Et là où le parler vrai l'emportait, le parler vrai tout d'un coup est devenu difficile à accepter. Et dès lors, c'est l'équilibre entre émotion et raison ou rationalité qui s'évanouit, équilibre toujours très délicat à restaurer comme on le voit en ce moment. En témoigne le désamour apparent entre le président de la République et les personnes aujourd'hui interrogées par les instituts de sondage. Vous avez eu Brice Teinturier, le parler vrai maître mot de la campagne présidentielle et pierre angulaire de la position du candidat, a permis la victoire. Un peu par surprise, certains allant jusqu'à parler de manière un peu excessive de hold-up. Une fois installé, le président de la République a poursuivi sur ce même thème, mais assez vite, il a été critiqué par la presse, sans que les critiques de la presse impriment dans l'opinion ou dans les esprits du grand public. Et ce, jusqu'au moment où, patatras, pour une raison inexpliquée, l'opinion se cabre et ne suit plus l'Élysée dans ce dialogue de vérité. Surpris, le président de la République tarde à réagir et surtout ne rétablit pas le fragile équilibre entre émotion et rationalité. Il est alors excessivement délicat de mettre un terme à la spirale négative qui s'ensuit, car le lien émotionnel, tout comme la confiance, ne se décrète pas, que ce soit en matière d'opinion ou de publicité, ou même dans les relations entre les êtres. Il faut peut-être commencer par cela. Pour illustrer l'importance absolue de ce fragile équilibre, laissez-moi prendre le seul exemple de la connivence qui prend souvent la forme d'une résonance temporelle par rapport à une psyché, réelle ou fantasmée. Nous sommes en 1984 aux États-Unis lorsque Apple diffuse sa campagne 1984 en plein Super Bowl. Super Bowl, c'est cet événement extraordinaire, la coupe finale, la finale de la coupe de foot américaine, et avec des audiences à tout casser. Et en référence au roman éponyme de George Orwell, la vidéo nous plonge dans l'univers grisâtre et misérable du régime policier totalitaire de Big Brother. Une foule de silhouettes ayant les yeux rivés sur un écran prenant de façon abétissante l'unification de la pensée. L'écran, vous l'avez compris, c'est celui d'IBM. Une femme athlétique, lumineuse, bariolée de couleurs, surgit et brise l'écran d'un lancer de marteau, laissant place au slogan « Le 24 janvier, Apple Computer lancera le Macintosh et vous verrez pourquoi 1984 ne sera pas comme 1984. » D'aucuns parlent de la meilleure publicité de tous les temps. Je retiens la résonance émotionnelle entre une angoisse dystopique et une technologie vecteur de ce futur, mais également la rationalité liée aux produits bientôt disponibles. Et on sait ce qu'est devenu Apple depuis cette époque. Autre cas de figure, maintenant, nous sommes en 1964, en pleine campagne présidentielle américaine, lorsqu'une seule campagne vidéo d'une minute, diffusée une seule fois à la télévision, a fait basculer le sort de l'élection. Et osons le mot, deux ans après la crise des missiles de Cuba et quelques mois seulement après la sortie du film Docteur Follamour de Stanley Kubrick, je crois qu'on peut dire le sort du monde libre en contribuant à faire élire Lyndon Johnson contre le va-t-en-guerre anti-soviétique Barry Goldwater. À l'écran, que voit-on ? Une petite fille prénommée Daisy compte les pétales d'une marguerite, évidemment Daisy, ça ne peut pas être autre chose, en guise de compte à rebours d'un holocauste nucléaire, sans aucune allusion explicite à Barry Goldwater. Le pays est saisi d'effroi, cela fonctionne, et pourtant, nous sortons ici du cadre de la publicité, l'émotion, ici la peur, est brute, sans contrepoids rationnel, cela ouvre la porte à une pratique que les publicitaires ont en horreur, et ont toujours refusé la négativité. L'attaque politique, souvent ad hominem, abondamment employée aux États-Unis et dont nous sommes pour l'heure protégés, qui ne peut pas conduire à la préférence. Et néanmoins, ça a formidablement marché, parce que, après Cuba, après effectivement Docteur Follamour, les gens avaient une peur panique que ceci puisse arriver pour de bon. J'espère que vous me pardonnerez ces exemples un peu longs, mais il m'a semblé important d'illustrer les limites des techniques publicitaires quant à la tentation de masquer des faiblesses jaugées à l'aune du marché de l'opinion. Marché de l'opinion, c'est le second volet sans lequel cette communication ne pourrait espérer être complète. Nul n'ignore ici le scandale de ciblage politique Cambridge Analytica qui a éclaboussé Facebook ou le fléau des fake news produites jusqu'à la Maison-Blanche. Cela nous conduira progressivement à questionner ce que je qualifierais de détournement du cadre légal et légitime des techniques de la publicité pour discuter d'enjeux démocratiques et citoyens. Avec votre permission, revenons un instant sur l'accélération des bouleversements technologiques en cours. À grands traits, le modèle économique d'Internet est le suivant. De manière un peu caricaturale, et pardonnez-moi pour cela. En échange de vos données personnelles, électroniques, que ce soit la navigation sur Internet, la position GPS, les commentaires que vous faites en ligne, les cercles amicaux Facebook ou professionnels LinkedIn, des services gratuits, du moins de prime abord, sont mis à votre disposition. Ainsi, j'utilise un moteur de recherche pour trouver un restaurant, je consulte des commentaires de clients passés et j'utilise un service de cartographie pour m'y rendre sans avoir déboursé le moindre sou. Mais en ayant contribué à l'existence même du système, sans lequel je ne pourrais pas me servir de ces données, et sans mes données, le système ne pourrait pas fonctionner. C'est donc un ensemble parfaitement cohérent. Un tel modèle a une valeur d'usage au quotidien, ainsi qu'une valeur colossale, comme on le voit par la valeur des boursières des plateformes, pour les plateformes géantes qui agrègent ces données et financent le système grâce à la publicité. Ou, pour le formuler autrement, la publicité finance l'architecture ouverte, libre et pluraliste qu'est Internet depuis son origine. Dès lors, plus de données signifie plus de nuances quant aux marques d'intérêt, aux différences dont pourront naître des préférences. En toute logique, les techniques publicitaires se sont donc adaptées à cette sophistication technologique afin d'être en mesure de poursuivre une discussion intime avec les consommateurs. Intime parce que elle est individuelle et elle est de proche en proche et grâce aux algorithmes et à l'intelligence artificielle pilotée au plus près des besoins et des expressions du consommateur. Ceci implique, par exemple, de connaître et comprendre ce qui importe au consommateur. Dès 1935, aux États-Unis avec George Gallup, et dès 1954, en France, avec Marcel Bessin-Blanchet, qui est l'homme qui a introduit les sondages d'opinion en France, le fondateur de Publicis, les sondages d'opinion sont de précieux outils déclaratifs. Mais avec les données électroniques, l'univers des possibles s'agrandit de manière prodigieuse. Désormais, les signaux comportementaux sont pris en compte, ainsi que la pertinence sémantique, tant pour des produits que pour du contenu, que ce soit du texte ou des images, le tout à l'aide de modèles prédictifs à base d'intelligence artificielle. Cela implique également de pouvoir dialoguer avec le consommateur en segmentant, par exemple, des audiences pour maximiser l'engagement avec une population cible définie de manière précise au préalable et en utilisant tous les canaux pertinents, la bannière publicitaire, les emails, le SMS, bien sûr la télévision, la radio, la presse pour ce qu'il en reste, pour poursuivre de manière fluide une conversation personnalisable pour chaque individu et en intégrant la possession de plusieurs écrans. Enfin, Face à une course à la collecte de volumes toujours plus importants de données personnelles détaillées, cela implique nécessairement de faire évoluer le cadre réglementaire pour mieux protéger le consommateur. C'est le sens du Règlement général sur la protection des données, le RGDP, ou si vous préférez RGPR, GDPR, de l'Union européenne depuis le 25 mai 2018, du Consumer Privacy Act en Californie qui s'est beaucoup inspiré de RGDP et demain de la directive européenne de l'e-privacy. Jusqu'ici, rien de plus normal du point de vue des techniques publicitaires et il n'y a pas lieu de singulariser un usage à portée politique. Ainsi, lorsque le spécialiste des big data Proxem réalise un diagnostic électoral pour l'équipe d'En Marche, en campagne, plusieurs thématiques lexicales émergent. La solidarité, l'intégrité, la transparence, le sens des réalités, l'écoute, le respect des engagements, etc. Autre exemple, une fois raffiné par de puissants systèmes de gestion des données, ce qu'on appelle le Data Management Platform, les DMP, les données publiquement disponibles, celles qui existent et qui sont accessibles à tous, notamment au travers de l'INSEE, l'historique électoral des bureaux de vote, peuvent également aider au porte-à-porte électoral auprès des sympathisants, comme ce fut le cas, et c'était la première fois où il y avait une rénovation du système du porte-à-porte avec le vote builder lors de la campagne démocrate pour les élections législatives américaines en 2014 pour Obama ou lors de la campagne pour les primaires de la droite en France en 2016. En revanche, le marché de l'opinion politique se distingue par les conséquences qu'occasionne la neutralisation de certaines hypothèses publicitaires fondamentales. D'abord, la pluralité d'opinions et les conditions de possibilité de la préférence. Nous disions que la publicité est l'inverse de la propagande en ce sens qu'elle n'existe que par la préférence et donc la liberté de choix, l'existence d'une parole dissonante, la comparaison réelle ou en creux, la concurrence et surtout l'exercice et l'existence de contre-pouvoirs. C'est peu dire que les réseaux sociaux ont exaucé le vœu de Talleyrand pour qui il n'y a qu'une seule chose que nous aimions avoir partagée avec nous, quoi qu'elle nous soit bien chère, c'est notre opinion. Le poids titanesque des réseaux sociaux en vase clos, ce qu'on appelle les walled gardens, de type Facebook, combiné à l'essor des bulles de filtrage qui orientent via des algorithmes notre vision du monde, conduit à une forme de balkanisation polarisante du web. Vous interagissez principalement avec des individus qui vous ressemblent, adhèrent aux mêmes idées, dans le contexte d'une réalité distordue par des algorithmes de sélection qui privilégient la radicalité du propos. De proche en proche, malgré une taille véritablement mondiale, ces réseaux se replient sur eux-mêmes pour devenir des caisses de résonance homogènes où les opinions tendent vers une asymptote extrême. Ensuite, la notion de vérité qui se distend dangereusement. Selon Hannah Arendt, le but de l'éducation totalitaire n'a jamais été d'inculquer des convictions, mais de détruire la faculté d'en former une. Le sujet idéal du règne totalitaire est l'homme pour qui la distinction entre fait et fiction et la distinction entre vrai ou faux n'existe plus. Les fake news ont aujourd'hui envahi nos vies, au point que la commission d'enrichissement de la langue française s'est officiellement prononcée le mois dernier en recommandant l'emploi des termes « information fallacieuse » ou « infox ». Les fake news, il ne faut pas se tromper. Et je fais juste une parenthèse dans mon discours. Et non seulement elles existent en nombre impressionnant. Je vais vous donner un exemple extrêmement intéressant que nos services ont pu identifier. Des nouvelles complètement artificielles sorties de nulle part aux États-Unis sur des sites dont on imagine qu'ils ont été créés par des Russes, avec rigoureusement le même texte, une accroche droitière, une accroche gauchiste, et dans le même cas, une audience à peu près équilibrée. C'est-à-dire que vous avez un site qui reproduit un texte avec une accroche qui est véritablement destinée à la droite dure, et vous avez un autre site qui est le frère jumeau qui reproduit un texte le même avec un titre, une headline ou une accroche qui elle est destinée au public de gauche, et le contenu rigoureusement le même et le contenu inventé. Ces sites existent, ils capturent de la recette publicitaire. Ils disparaissent après avoir recueilli 50, 60 millions de dollars. Ils se recréent dans une autre île et ils se recréent sous un autre nom. Et on voit cela de manière assez fréquente. Soulignons que raréfaction des opinions dissonantes et rapports distendus à la vérité sont aggravés par un fléau qui touche l'ensemble du secteur publicitaire. Il s'agit des bots et de la fraude à grande échelle. Les bots, vous savez ce que c'est ? Ce sont les générations de messages à l'aide d'intelligence artificielle. Et donc, vous pouvez avoir, d'ailleurs, tout comme vous avez Alexa, et tout comme vous avez un certain Cortina, ou que sais-je, un certain nombre d'assistants qui sont capables de répondre au téléphone et qui sont capables de suivre une conversation, eh bien, c'est la même chose. Et ce sont des outils qui sont fabriqués à l'aide d'intelligence artificielle, des algorithmes qui permettent de calibrer. Et selon une étude de l'Université de Californie portant sur 20 millions de tweets électoraux publiés en un mois de campagne présidentielle en 2016, 19% relevaient de bots qui étaient soit pro-Trump ou soit pro-Clinton, à peu près à poids équivalent, 9 et 10%. C'est une chose que de biaiser et polariser la discussion sur un produit ou un service commercial, c'en est une toute autre de redistribuer les cartes de manière décentralisée dans le cadre d'une élection en faisant croire qu'il s'agit du message de M. Smith ou de Mrs. Jones. Et c'est ce qui se passe, puisque ces bots, en fait, portent le nom d'un un internaute. D'où la question, comment juguler une telle utilisation de techniques également pertinentes dans le domaine publicitaire, par-delà l'indispensable discipline, qu'elle soit légale, comme ceux qui se construisent sous nos yeux en Europe, ou volontaire, comme ceux qu'appelle Apple de ses vœux. Pardon, je n'ai pas pu résister. J'en reviens toujours à l'essence même de la publicité, la liberté et la préférence. C'est la raison pour laquelle je reste fondamentalement optimiste, convaincu que la solution viendra des consommateurs citoyens eux-mêmes. Mais ça prendra du temps. Je note avec attention et curiosité l'émergence d'un débat sur une répartition plus équitable de la valeur co-créée par ceux qui génèrent des données et ceux qui les agrègent. D'aucuns vont jusqu'à prôner une monétisation des données. Nous ne sommes pas encore là, mais j'encourage les éminents savants de cette Assemblée à surveiller ce débat, car il ne permettrait rien moins que de boucler la boucle de l'opinion partiellement monolithique et propice au tapis de bombes publicitaires via la télévision. Nous sommes passés à un marché d'offres, d'opinions individuelles et propice au ciblage personnalisé. En deux mots, de quoi s'agit-il ? les uns et les autres, nous utilisons Internet, nous utilisons des téléphones portables, nous envoyons des SMS, nous envoyons des emails et nous consultons Facebook, Twitter, Google, etc. Toutes ces données que nous générons devraient nous appartenir. C'est ma conviction. Or, nous en sommes dépossédés, puisque Monsieur Dupont qui nourrit, ou Mr. Lee, ou Monsieur Smith, ou Mrs. Jones, toutes ces données qui forment la richesse colossale de Facebook et de Google et bien d'autres, ne leur appartiennent pas. Ils se les sont appropriés parce qu'ils les agrègent, ils font un travail derrière, et donc qui méritent rémunération, ils offrent un service qui mérite rémunération, mais dans ce cas, une partie de la rémunération, et donc du pouvoir d'achat, devrait retourner à celui et à celles qui ont fabriqué ces données, puisque sans ces données, il n'y aurait ni Facebook, ni Twitter, ni Google. J'avais plaidé cette cause il y a bien longtemps, au moment où on parlait de RGDP, en disant plutôt que de faire une législation, on ferait mieux de dire que le consommateur est propriétaire de ses données et mérite d'être rémunéré pour la création de la richesse qu'il aura contribué à créer. Malheureusement, je n'ai pas été entendu, mais ce n'est pas la première fois, j'ai l'habitude, donc je vis bien avec cela, enfin à peu près bien. Si vous saviez, mon cher ami. C'est probablement à un marché de demande que nous allons assister. Il commence à s'esquisser, auquel tout un chacun choisirait de participer ou non, dans les proportions qui lui conviendraient. En somme, un monde de préférence librement choisi. Je vous remercie.